Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur qui nous a conduits jusqu'à cet avant-dernier jour de notre programme. Disons-lui merci parce que c'est lui qui donne la vigueur à celui qui est fatigué, parce que c'est avec lui que nous franchissons les obstacles, c'est avec lui que nous renversons les murailles. Tu n'as pas pu tenir parce que tu étais fort, mais parce qu'un bras fort, le bras de l'Éternel t'a soutenu jusqu'à cette heure. Beaucoup au départ ont soupiré, arrivé à ce jour. Mais il y a des situations qui les ont emportés ou qui les ont détournés de ce projet merveilleux de Dieu. Mais toi, tu es resté. Dieu Seigneur, merci. Dieu Seigneur, que tu veux saisir la portion de ce soir comme la portion du couronnement d'une nouvelle dimension qui t'engage à aller au-delà de ce que tu peux voir. Père, nous sommes venus. Nous sommes venus parce que tu nous as convoqués. Nous sommes venus comme des vases qui ont besoin d'être remplis jusqu'à en déborder. Nous sommes venus comme des vases que tu dois transformer. Nous sommes venus devant toi, le potier, afin que tu nous donnes la forme qui sied. Saint-Esprit, saisis-toi de nous. Que tu parles et que nous nous taisons. Que seule ta parole soit révélée ce soir. Et que la chair se taise. Et que l'esprit soit vivifié par toi. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Et on nous assoit. Bien-aimés, ce soir, nous sommes rassemblés autour du dernier thème. Surmonte les forces contraires. Pendant tout ce parcours avec le Seigneur, chacun de nous aurait fait face au moins à une force contraire. Nous allons dire ce que nous entendons par force contraire. Parler des faiblesses, parler de leurs menaces. Comment surmonter les forces contraires? À titre d'exemple, qui pendant ce programme ne s'est pas senti une fois un peu fatigué? Qui ne s'est pas senti fatigué? Bon, qui s'est senti fatigué? Voilà. La fatigue en elle-même peut être une force contraire. Une lourdeur peut être une force contraire. Un jour, tu as voulu te lever pour venir à ce programme. Et il y a des préoccupations de la vie. Il y a un deuil qui a commencé à te perturber, qui a voulu focaliser ton attention. C'était une force contraire. Donc, pendant ce programme, plusieurs forces contraires se sont élevées. Maintenant, il est question, si nous voulons oser recommencer, il faut surmonter les forces contraires. Après, dans ce parcours où tu t'engages à avancer, à oser recommencer, des forces s'opposeront à ta progression. Des faits ou des événements vont se dresser comme des obstacles. Nous les appelons les forces contraires. Et nous allons les identifier en deux catégories. Des forces qui sont internes, on va les appeler les faiblesses. Et les forces qui sont extérieures, on va les appeler des menaces. Parce que tu ne peux pas te menacer toi-même. C'est de l'extérieur que tu es menacé. Mais faiblesse, et cette faiblesse est intérieure. Alors, il sera question de regarder à la lumière de la parole de Dieu ce que Dieu dit au sujet des faiblesses. Alors, en regardant l'histoire de tous les héros de la Bible, tous ceux qui ont été considérés comme héros, de Abraham à Moïse, en passant par prophète Ésaïe, les grands hommes de foi tels que Job, les prophètes tels que Jonas, tels que Élie, Jérémie, il y a eu des moments de faiblesse. Il y a eu des moments. La première faiblesse de celui qu'on appelle le père de la foi, c'était la peur. En Égypte, il a eu peur qu'il soit tué. Il a dit à sa sœur Saraï, sa femme, qui était sa femme, de dire que vraiment, dis que tu es ma sœur. Vraiment, on va me donner la vie. C'est la peur. C'était une faiblesse. Ces héros-là ont connu des faiblesses. Ces faiblesses-là doivent nous enseigner. Si on veut regarder à sa faiblesse, il a dit, je ne sais pas parler. Il n'était pas courageux. On va voir à la lumière de la parole de Dieu ce que les faiblesses peuvent représenter et comment les affronter. Lorsque nous parlons des faiblesses, il s'agit des éléments intérieurs qui paralysent notre progression, qui peuvent nous empêcher d'atteindre notre destinée. Il y en a beaucoup de choses, d'éléments qui peuvent t'empêcher d'atteindre ta destinée. Et parfois, nous sommes focalisés sur nos faiblesses. Et toutes les fois que nous sommes focalisés sur nos faiblesses, à coup sûr, on ne va pas plus loin. Nos faiblesses deviennent des raisons de vivre. On passe le temps à les regarder et on ne vit que pour nos faiblesses. Alors, la première faiblesse que nous allons évoquer ici, c'est la peur. La peur est un sentiment qui t'empêche d'accomplir la volonté de Dieu. La peur ne vient pas de Dieu. C'est un sentiment qui vise à t'empêcher d'accomplir le projet de Dieu, de manifester puissamment ta foi, de croire en l'amour de Dieu et en sa fidélité. Dans l'évangile de Luc, Jésus avait ordonné à un de ses disciples, Pierre, de marcher et de venir sur l'eau et de venir vers lui. Pierre a commencé à marcher. À un moment donné, comme il a oublié de regarder à celui qui lui a ordonné de marcher, il a commencé à regarder à lui-même, comme il était un peu fort, et il a pris peur. Il est entré dans l'eau. Ouvrons nos Bibles dans trois passages que nous allons lire très rapidement au sujet de la peur. Ésaïe 44, verset 8. Jonas 1, verset 5. Luc 19, verset 21. Très rapidement, parce que c'est un élément que Satan utilise tellement pour nous affaiblir. Ésaïe 48, verset 44, verset 8. Jonas 1, verset 5. Luc 19, verset 21. Oui. Tel que je suis sans rien, alors? Ça, c'est la réponse de Dieu au sujet de la peur. Dans Ésaïe 44, verset 8, il dit, « N'ayez pas peur, il n'y a pas d'autre Dieu. Ne vous ai-je pas dit que je suis le Dieu? N'ayez pas peur, il n'y en a point d'autre. » Dieu dit de ne pas avoir peur. Ça, c'est la promesse de Dieu. Il dit, « Puisque vous êtes mes témoins, n'ayez pas peur. » Mais maintenant, voyons ce qui est arrivé à quelqu'un qui avait conscience que Dieu avait dit, « N'ayez pas peur. » Jonas chapitre 1, verset 5. Oui. Voilà ce qui s'est passé. Les mariniers avaient leur embarcation qui devait être quelque chose de très important pour l'accomplissement de leur projet de vie. Mais maintenant, comme il y a eu la grande tempête, ils ont peur. Et qu'est-ce qu'ils font? Chacun cherche des solutions. La peur, c'est ce qui t'amène à chercher des solutions en dehors de Dieu. Ce qu'ils font, ils vont commencer à invoquer leur Dieu. Chacun va invoquer son Dieu. Pourtant, ils ont conscience qu'il y avait un Dieu qui a dit, « N'ayez pas peur, je suis avec vous. » Et celui qui avait conscience de cela, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ce qu'ils devaient accomplir, le besoin de leur famille, la cargaison qu'ils avaient, ils commencent à vider le navire. Voilà ce que la peur a provoqué. Regardons maintenant dans Luc 19, verset 21.
De toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé.
Voilà les mecs à qui on donne des talents. On t'a donné des talents. Dieu attend que tu fructifies tes talents. Alors il avait donné 5 talents. Celui-là en a ramené 10. Alors il en avait donné 2. Il en a multiplié davantage. Et à un autre, il avait donné un seul. Celui à qui il avait donné un seul, qu'est-ce qu'il dit? J'ai eu. Et qu'est-ce qu'il fait? L'enterrer. Tu as peur, tu enterres le potentiel que Dieu a mis en toi. Tu es un homme sévère. Tu moissonnes là où tu n'as pas sémé. Voilà ce que la peur fait. La peur donc paralyse tes actions. Inhibe ta foi. Elle rend ta foi inopérante. Et des promesses de Dieu. Dieu a dit, mais la peur te dit, il faut quand même voir ailleurs. Or, la peur a ceci de particulier, c'est que tu ne crois plus aux promesses de Dieu. Tu ne vois plus la fidélité et l'amour de Dieu s'accomplir. Deuxième faiblesse que nous traînons souvent et qu'il faudrait supporter, c'est l'orgueil. J'ai un frère qui l'orgueil accouche les problèmes. C'est-à-dire que quand on est orgueilleux, ce sont les problèmes et les problèmes successifs. Proverbe 8, verset 3. Proverbe 11, verset 2. Ésaïe 13, verset 11. Et Ésaïe 23, verset 9. Premièrement, l'orgueil fait de toi, cette faiblesse fait de toi de Dieu. Les orgueilleux, ce sont des personnes imbues d'elles-mêmes, qui se croient suffisantes et qui se frappent la poitrine. Quoi qu'elles connaissent, sont l'ouvrage de leurs mains. Ça, c'est de l'orgueil. Et quand on est orgueilleux, on entre en conflit avec Dieu. C'est la guerre que tu as déclarée contre Dieu. L'orgueil va précipiter ta chute. L'orgueil anticipe et t'empêche d'atteindre ta destinée, le projet de Dieu. Tu sors de ta vocation. Tous les orgueilleux courent sur les couloirs pour lesquels Dieu ne les a pas établis. Proverbe 11, verset 2. Oui, quand vient l'orgueil, vient aussi la honte, vient l'ignominie, on est couvert de honte. On est ignoble devant Dieu et devant les autres. Ésaïe 10, Ésaïe 13, verset 11. Oui.
Il y a un bonheur qui chante en moi et qui me donne la joie, sans lequel je ne peux vivre.
Ok, merci. Le texte que j'avais voulu citer, c'était plutôt Proverbe 16, verset 18. C'était ça. C'était pas dans ce que j'ai cité tout à l'heure là. C'était Proverbe 16, verset 18. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. En tant qu'orgueilleux, tu échoues avant que le scénario ou le film de ta vie commence. Ça, c'est qui arrive. Il y a des gens, ils n'ont même pas encore commencé à être dans la destinée de Dieu. Dès que tu es orgueilleux, tu as déjà échoué. Tu ne peux pas avancer. L'orgueil nous qui amène Dieu à nous résister, à être, à faire de nous des ennemis de Dieu. C'est comme s'il y avait un combat entre Dieu et nous. 1 Pierre 5, verset 5. Le découragement. Vous pouvez lire 1 Samuel 17, verset 32 et Jérémie 38, verset 4. Le découragement a ceci de particulier et on le retrouve tellement chez les chrétiens. Une petite situation comme ça. Ah, je ne fais plus. Je ne parle plus. Je ne veux même plus chanter. Je ne veux même plus aller à l'étude biblique. Je ne suis même plus dans la chorale. Ça, c'est le découragement. À qui profite le découragement? Jamais à toi, mais à Satan. Dès que tu te décourages, Satan prend du terrain, il continue. En fait, la tactique de Satan, c'est d'amener les chrétiens à se combattre et à se décourager. Tu as repris un frère une fois, deux fois, il n'écoute pas, tu dis, ah, d'ailleurs, c'est sa vie, il fait comme il veut. Tu te décourages, ça veut dire que tu l'as laissé à la merci de Satan. Tu vas évangéliser. Tu dis, depuis que je parle à mon frère-ci, il ne croit pas. Frère, il y a des gens à qui on va parler. Jusqu'à ce qu'ils se répandent. Tu vois, ton travail, c'est seulement de parler. Il y a quelqu'un qui va passer un jour. Il va dire une seule phrase. Et la même phrase, là, toi-même, tu avais dit ça même 50 fois. Mais il va dire la même phrase. Tu as dit à ton frère que vraiment Jésus t'aime. Il a toujours entendu Jésus t'aime. Mais voilà, quelqu'un qui arrive là, tu sais que Dieu est plein d'amour. C'est une nouveauté. Et il croit. Or, tu t'étais déjà découragé. Ça, c'est la tactique de Satan. Lorsque nous nous décourageons, qu'est-ce qui se passe? Satan fait croître l'ivraie. Et nous sommes perdants. Ça fait qu'on n'a plus tendance à faire quelque chose. Il y a une soeur qui me disait un jour, pasteur, vraiment, les frères là, ils ont mal parlé de moi. Moi, je ne veux plus rien avoir avec eux. Est-ce que vous savez que même dans l'église, Satan peut utiliser certains frères, certaines sœurs qui sont dans des moments de faiblesse pour vous atteindre. Et si vous n'êtes pas vigilant, vous allez croire que les frères et les sœurs là vous détestent. Vous vous asseyez là, vous dites, frère, quel est même notre problème? Personne n'est capable de vous dire hein, le problème. Mais on sait seulement que le jour là, tu nous avais énervés. Tout ce qu'on peut te dire, c'est qu'on n'était pas content. De quoi? Personne n'est capable de dire pourquoi on n'était pas content. Et cela entraîne le découragement. Lisons 1 Samuel 17, verset 32. Et Jérémie 38, verset 4. C'est très important ces deux textes. Suivez bien ce que David dit. Si tout le monde veut se décourager, comme Dieu est avec toi, ne te décourage pas. Et dis à ceux qui sont autour de toi que personne ne se décourage. Nous allons atteindre le but. Que personne ne se décourage. David avait une connaissance de Dieu. Et la connaissance que tu as de Dieu te donne de surmonter le découragement. David connaissait parfaitement le Dieu qu'il servait. Il dit à Saül que personne, tout le monde voulait déjà fuir dans l'armée d'Israël. Les gens avaient dit que l'air là, non, on ne peut pas. Et c'est la même chose. Une petite situation dans ta vie, une maladie arrive. Tu dis, ah, on va faire comment? Laissons-le aussi comme ça. Que personne ne se décourage. On m'a amené dans une famille m'a appelé ici à Banengo une fois pour prier. Ils sont venus me supplier. Vous savez quel genre de prière ils attendaient? Pasteur, vraiment, notre Père, il faut que tu pries vraiment pour que si son âme peut même aller au ciel. Vraiment, que Dieu ait pitié de lui et qu'il meure, batte-lui en paix. Et quand je dis que, vous savez, ils disent non. Je vais aller prier et je vais déclarer que le Dieu que je sais, qui est le Dieu vivant, lui donne encore de vivre longtemps pour vous de prodiguer des conseils. On dit que, bon, pasteur, venez alors prier, venez prier. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, en me disant, venez prier, c'était par dépit. Alors nous arrivons, le père était couché dans une chambre, je me mets à prier, on prie, je déclare la vie dans le corps du père. Le père est là, il était inerte. On attendait seulement qu'il... Pendant que je prie, le père tousse. Le père a toussé. On m'a laissé avec une seule personne. Quand il a les autres qui étaient dehors sont entrés. Et on a fini de prier. J'ai dit que c'est Zoé, le Dieu de la vie. La vie est dans ce corps. Tu ne pourras pas sans que tu aies prodigué des conseils à tes enfants. À la fin de la prière, le père dit qu'il a faim. Il part. Il dit qu'il a faim. Il avait 3 jours. Même, il dit qu'il a faim. Le père a encore vécu 3 ans. 3 ans. Avant de partir. Mais pour les enfants, vraiment, il fallait seulement appeler le pasteur qu'on prie pour le repos de son âme. Ça, c'est le découragement. Il y a beaucoup de situations comme ça que nous traversons. Quand tu n'as pas conscience du Dieu que tu sers, tu es tenté de te décourager. Il faut surmonter le découragement. Lisons Jérémie 38, verset 4. te décourages, tu ne veux pas ton bien et le bien du peuple. Cet homme, ceux qui se découragent, personne. Et on devrait même les mettre de côté. Voilà la situation que Israël traverse. Et le, on dit au roi, cet homme qui propage le découragement, qui propage le découragement là, il ne doit pas continuer à vivre. Il ne veut pas le bien de cette ville. On devrait le mettre à mort. Il y a beaucoup de personnes dans l'église, dans ton entourage, qui vont t'amener à te décourager. Ce sont les Sambala, ce sont les Tobija, qui au temps de Néhémie, quand Néhémie veut bâtir les murailles de Jérusalem, il dit que non, on n'y parviendra pas. Il y a des projets bien qu'il faut exercer son discernement à certaines personnes. Parce que si tu n'exerces pas ton discernement, dès que tu vas lui parler, là, l'esprit du découragement, il va te contaminer. C'est contagieux. Hein? Il va te dire que, est-ce que tu penses que tu vas même arriver? Tu as d'abord planifié. Non, quand c'est quelque chose de la foi que Dieu t'a révélé, fais attention à qui tu partages cela. Il peut te décourager. Tu as le zèle pour la louange. Quelqu'un te dit que, vraiment, quand je te vois chanter là, tu te débrouilles seulement. Ce n'est pas... Ça, c'est l'esprit du découragement. Non, quand c'est ton ministère, mon frère, il faut foncer. Il y a des choses que tu ne dois pas partager avec quelqu'un. Il peut te décourager. Tu veux entreprendre une chose à la gloire de Dieu. Quand tu es convaincu, ne laisse pas le découragement prendre le dessus. Le découragement complique toute possibilité de recommencement et empêche ton progrès. Il y a l'esprit d'amertume. Oh, Dieu dit dans 1 Thessaloniciens, il est toujours joyeux. Il y a des gens qui sont joyeux par saison. C'est un péché contre ce texte-là. Soyez toujours joyeux. L'amertume dans l'âme. Quand tu as l'amertume dans l'âme, tu ne peux pas avancer. Quand ton âme est triste, l'amertume, tu rumines des choses compliquées et la haine prend le dessus dans ton cœur. Tu vois toi et dès que quelqu'un peut une chose qui va dans le sens de s'opposer à ce que tu penses, tu vois qu'il est contre toi. Non. Ça, c'est l'amertume. Et plein de personnes dans l'église vivent avec un esprit d'amertume. La faiblesse d'amertume. Je ne parle plus avec tel. Je ne vais plus avoir quelque chose avec tel. On ne sera plus en commun sur rien. On est même ensemble comme ça. On dit frère, on semble... De l'amertume dans le cœur. L'amertume dans le cœur t'empêche d'être joyeuse et d'exprimer le plein potentiel qui est en toi. Ça paralyse et Satan en est conscient. Et s'en sert très bien. Vous voyez une soeur, elle se couche à 20h sur le lit. Mais c'est à 1h qu'elle trouve le sommeil. Ou à 2h. Vous savez pourquoi? C'est l'amertume. C'est pas les insomnies. Les insomnies, là à l'hôpital, on va prescrire tout ce qu'on prescrit là. Médicaments qui sont des effets placebo, ça ne vit à rien. Quand vous avez l'amertume, vous devez aller devant Dieu guéri. Et tant en est conscient. Il y a la honte. La honte. La honte t'empêche et te refroidit. Refroidit ton zèle. Il y a des gens qui ont honte de Jésus et Jésus a dit, si vous avez honte de moi, j'aurai honte aussi de vous devant mon Père. Il y a plusieurs personnes qui ont honte de Dieu et à ce sujet, que fait la honte? La honte fait en sorte que tu annules ton identité. Il y a des gens qui ont même honte de leur tribu. Hein. Quand ils arrivent dans une zone, on va dire que si est d'ici que je suis de l'ouest, tu aurais des problèmes. Tu es de l'ouest, tu ne peux pas changer ça. Tu peux d'ici et dit que je suis chrétien ici. Vraiment, on va mal me regarder. Surtout ceux qui sont dans la police. Je n'ai rien contre les policiers. Hein? Mais quand tu travailles avec certains groupes de policiers, si tu veux être chrétien, là, on va aller dire que non, tu es en route. Il faut que tu partes un peu à côté. Parce que tu veux être trop chrétien. Trop chrétien là, sur la route là. On n'a pas besoin de chrétien là-bas. Hein? Et si tu n'affirmes pas ton identité, alors les gens vont. Tu auras honte. Tu as dit, ouais, mes collègues, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Et tu commences à avoir honte. La honte paralyse les ailes pour le. Ça paralyse ton enthousiasme pour le Seigneur. Il y a des gens dans leur lieu de service. Elles ne peuvent.
Pour lequel je vis. Le prince de l'Église.
Si elles chantent un cantique chrétien là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Parce qu'elles ont tellement honte. Il y a tellement de choses qu'elles ont eu à faire. Et qu'elles, dans lesquelles elles sont plongées. Que. Le cantique là ne va pas bien sonner. Parce qu'elles ont honte. Et pour sortir de la honte, il faut revoir sa question d'identité avec le Seigneur. Sa question d'identité avec le Seigneur. Donc c'est une faiblesse. Jésus dit que vous devez crier sur les toits. Vous devez crier sur les toits qui vous êtes. Vous ne devez pas honte de parler de lui. Parce que quand vous avez honte, qu'est-ce que Satan fait? Il y a un passage là que je voudrais. On va le lire d'ici avant la fin. La honte a ceci de particulier. C'est que tu penses à ce que les autres pensent de toi. Tu détruis ce que toi-même tu penses de toi. Aux fonctions de ceux qui sont à côté de toi. Au marché, par exemple, comme tu as honte de parler de Jésus, tu t'associes aux autres pour mal parler de Jésus. Tu t'associes aux autres pour mal parler de Jésus. Voilà un monsieur qui passe avec sa moto évangélique. Il commence à dire, répentez-vous, donnez votre vie à Jésus. Ta voisine dit que à ceux qui parlent même de Jésus, comment sont les tueurs. Et toi, tu as tué. Oui, oui. Parce que tu as honte de Jésus. Tu as honte de Jésus. Mes frères, je voudrais vous dire une chose. Si tu vois un jour quelqu'un en train de parler de Jésus, Jésus mort et ressuscité, associe-toi à lui ou prie pour lui. Ne bat pas lui. Si tu t'engages contre lui à cause de son église, à cause de sa religion, tu es en train de t'affronter au Seigneur. Tu ne connais pas le mandat qu'il a reçu de Dieu pour se placer là. Il y a un jeune de la paroisse de Congo et un autre de la radio. C'est pas très bien. Ils ont leur mégaphone, leur ampli, un baffle amplifié là. Vous les voyez toujours au rond-point de la totale là. Tous les sont là, ils prêchent l'évangile, ils prêchent l'évangile. Je dis que le gars là, il est vraiment fou. Il perd son temps. Il fait même quoi là? Qu'il écoute même. Non. Mon frère, quand tu le vois comme ça, prie pour lui. C'est son ministère. Tu ne sais pas quel est le mandat qu'il a reçu. Quand j'étais encore au lycée général Leclerc, folie, hein? Parce qu'on avait le zèle pour le Seigneur. Le zèle pour le Seigneur nous a amené un jour, un père et moi, au lycée. Bon, vraiment, c'était un zèle un peu débordant. On est allé quelque part dans l'Assemblée nationale. Là, on a pris les traités. On s'est mis devant l'Assemblée. On a commencé à parler au bâtiment. Il n'y a personne, vous voyez, les gardiens là. Repentez-vous. Parlez-là pendant 15 minutes. Des militaires sont venus. Ils nous ont dit, mais mes amis, à qui est-ce que vous vous adressez? Ceux à qui nous on s'adresse, ils sont là. Nous, on ne voit personne. Bon, en tout cas, même si vous ne voyez personne, vous avez quand même entendu ce qu'on dit, non? Vous-même, répentez, répentez-vous. Et un militaire qui a dit, mes enfants, quand je vous vois là, j'ai beaucoup d'admiration pour vous, mais j'ai l'impression que il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce n'était pas tout. Un jour, un frère a une résolution. Il vient, il partage la résolution avec nous. On dit que frère, vraiment, non, non, le péché sexuel. Comment on va combattre le péché sexuel? Il dit, je pense que on va aller dans les kiosques qui sont là à côté de l'université. Comme les gens achètent les préservatifs là pour commettre le péché, on va prendre tout ça, on va acheter ça, on va aller brûler. Là, on ne va plus trouver. Et quand on allait le premier jour, après on a regretté quand même nos 5000, hein. Quand un grand frère dans la foi nous a donné une parole de sagesse. Parce qu'on n'avait pas la parole de sagesse. On allait, on a acheté. On s'est placé là, on a commencé à déclarer. On a brûlé. On a dit que c'était l'objet du péché. On a brûlé. Mais deux jours après, on se retrouve avec les frères au lycée. Le grand dit que vraiment, on a posé une action. Il y a un frère qui sort avec une parole de sagesse. Il dit que vous allez donc vous promener dans tout le Cameroun est brûlé. Il y a des choses que vous pouvez faire, que vous devez faire, et celles dont Dieu se charge de faire. On dit, ah, nous on croyait qu'on avait vraiment combattu. Donc il y a des faiblesses qu'on veut combattre, la honte, et parfois on s'engage dans les choses qui sont compliquées. Maintenant, une dernière faiblesse, c'est le péché. Le péché nous sépare de Dieu. La Bible nous dit dans Romains chapitre 3 et Romains chapitre 6, verset 23, ce que le péché produit. Maintenant, intéressons-nous très rapidement aux menaces. Les menaces sont des ennemis extérieurs. Et vous faites très attention à ces ennemis extérieurs, bien les identifier. Premier ennemi extérieur, c'est la culture. Dans culture, je veux mettre système de pensée, je veux mettre tradition, je veux mettre manière de faire. Plusieurs personnes vont vous bombarder dans les familles. C'est notre culture. On doit faire comme ça dans notre culture. Dans notre culture, on ne laisse pas le nombril comme ça. On doit enterrer. Dans notre nombril, dans notre culture, quand il y a les jumeaux, on renonce à ceux qui suivent. Ça, c'est laisser la culture. Et d'autres m'ont dit, la parole de Dieu même, c'était la culture des juifs, non. La parole de Dieu n'est pas la culture des juifs. Il faut enlever ça dans votre esprit. Ce sont des éléments que Satan utilise pour nous attaquer du point de vue, pour menacer notre foi du point de vue extérieur. La culture, elle est comme un moule qui va t'empêcher de prendre la forme que tu. Il y a des gens, lorsque la Bible dit une chose, il dit, dans notre culture, dans notre tradition, quand on est venu au monde, là on a vu les gens, ils font ça. La culture là, peut être quelque chose, la forme que Dieu voudrait. Prenons un exemple. Est-ce que se raser la tête, c'est culturel? Mais on va te dire que dans ta culture, si tu perds ton mari, il faut te raser pour qu'on sache que tu n'as pas tué ton mari, non? Quel est le rapport entre lever et mari? On dit que c'est la culture. Et vous voyez, une mère en route, comme une momie égyptienne pour effrayer les gens. On l'avait jamais vu le crâne nu. Mais là voilà maintenant avec un crâne nu au nom de sa culture. La culture. Tu perds ton mari. Tu as passé des mois à l'hôpital à prendre soin de ton mari. Tu pensais tout ton argent. Tu n'as même plus assez d'argent. Maintenant il décède. On dit que tu dois te coucher au sol. Que tu ne salues pas les gens avec la main. Et pour courir, on dit que tu as le Mélina. Porte Mélina. Et on dit la culture. La culture va t'empêcher de prendre la forme que Dieu voudrait. Il faut surmonter cette force contraire, cette menace. Au moment où nous achevons ce programme, oser recommencer, c'est refuser tout élément de la culture qui s'oppose à la parole de Dieu. C'est être capable de dire non à tout élément culturel qui s'oppose à la parole de Dieu. Il y a des lois injustes. Il y a des lois injustes. La laïcité. Dans le préambule de la constitution du Cameroun, avant celle de 1987, la constitution précisait que Dieu d'abord, que le Cameroun reconnaît l'autorité souveraine de Dieu, est placée sous l'autorité de Dieu. Mais au nom de la laïcité, de la colonisation, on a dit laïcité. Et vous savez d'où vient la laïcité? L'histoire des francs-maçons et des rédemptionnistes. On dit non, il ne faut pas qu'on parle de Jésus, on parle de Dieu. Notre pays est un pays laïque, ce n'est pas un pays religieux ou islamique. Laissez ça, les états islamiques sont là. Et au Cameroun, la population la plus nombreuse, c'est la population chrétienne. Le Cameroun, et on dit qu'il y a plusieurs confessions religieuses. Donc Dieu était assez haut au cœur de notre constitution. Mais au nom de la laïcité, ça empêche d'aller enseigner, de parler de Jésus dans les lycées, de prier avec les enfants. J'ai encore souvenance au viseur, l'ancien ministre Etoudi Boromé, qui au lycée général le côté, parce que on avait dit que nous on va prier. Les parents à une réunion des parents d'élèves pour dire que on ne doit plus parler enfin, à l'école. Il fallait satisfaire les gens. Le proviseur dit, mais j'ai non seulement parlé de Jésus, non. Ils ont encore fait quoi? Donc quand on parle de Jésus là, ça dérange qui? Laissez ils parler de Jésus. Si votre enfant va aussi suivre Jésus, qui suit Jésus? On lui dit, proviseur, tu sais, ici là. Donc vraiment, l'histoire qu'on te dit là, on ne veut plus que nos enfants parlent de Jésus. Lundi rassemblement, c'était plus qu'un décret. Et si on attrape un élève en train de parler de Jésus ici, on va le renvoyer. Et on s'est retrouvé dans la salle que lui-même nous avait donnée pour prier. On a dit, bon, comme tu dis qu'on ne parle plus de Jésus, nous on va au moins se retrouver pour prier. Ceux qui aiment Jésus vont se retrouver pour prier. Il a dit oui, pas de problème. Maintenant, beaucoup d'élèves viennent là-bas pour prier. Conséquence, on a dissous. On ne veut plus que vous priez, les chrétiens, là, on ne veut plus prier plus dans le lycée. Mais la bonne nouvelle, c'est que le proviseur nous a appelés dans son bureau quand on l'a nommé ministre pour prier pour lui. Vous voyez? Il y a les lois, certaines lois. Aujourd'hui, on veut passer pour passer une loi à l'Assemblée nationale. On t'a tente par plusieurs moyens, ça ne passe pas. Mais on cherche la loi sur l'homosexualité. On a déjà essayé à plusieurs reprises. Ce n'est pas facile. Mais les gens n'abdiquent pas. Et c'est pourquoi, quand on dit qu'il faut aller s'inscrire dans les élections pour voter, il faut s'inscrire. Parce que si tu votes quelqu'un là-bas, il va aller signer l'homosexualité. Et ça va s'appliquer. Tu ne pourras plus rien. Tu ne pourras plus rien. Il y a des lois qui sont des lois injustes. Des lois, par exemple, qui disent que tu peux avoir autant de femmes que tu veux. C'est bien, non? Dans certains pays, on a légalisé l'adultère. Jusqu'à dire qu'on ne couche pas quelqu'un qui a commis l'adultère. Ça arrive, c'est pas loin de chez nous. Ce n'est pas très loin. Ce sont des lois. Des lois où on veut marginaliser. On dit que si une femme, vraiment, si une femme a commis l'adultère, vraiment son mari doit comprendre. Si un mari a commis l'adultère, sa femme doit comprendre. Ce sont des lois injustes. Ce sont des menaces extérieures. Il faut les surmonter. Il y a des passés qui sont dangereux pour nous. Des passés qui sont traumatisants. Tu t'es engagé dans un matrimonial polygamie. Maintenant, tu as perdu une de tes femmes. Est-ce que ça fait de toi un monogame? Ça ne fait pas de toi un monogame. Elle est seulement morte. Ça ne fait pas de toi un monogame. Si tu veux être monogame, il faut annuler l'autre acte et signer monogame. Parce que la femme qui est là, elle est en instance d'incertitude. À tout moment, tu peux prendre autant que tu veux. Donc, tu n'es pas monogame. Maintenant, même si tu as perdu cette femme, il y a ses enfants qui sont là. Tu fais comment? Donc, ton passé là, comme elle est morte, voilà, les enfants là sont là. Et ils portent ton nom. Et sur leur acte, il y a le nom de leur mère et ton nom. Tu dis ça, tu justifies ça comment? C'est des passés qui sont têtus. Et il faut faire très attention lorsqu'on est dans une telle situation. Il faut se convertir, il faut s'engager résolument vers le Seigneur. Dernier élément ou avant-dernier élément, qui est une menace, verset 1. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a dans l'église, nous avons tellement des adversaires humains. Le combat est plus entre les hommes. Et on discute des choses assez banales. Tenez par exemple, vous êtes dans un lieu de service. Vous voyez tous les autres comme des concurrents. Quelle est cette histoire-là? Vous êtes pasteur. Dès que vous êtes en réunion de pasteur, vous voyez les autres pasteurs comme comme des concurrents. Quelle est cette histoire-là? Donc tout le monde devient adversaire. Des gens qu'il faut abattre. Des gens qu'il faut mettre des peaux de banane sur leur ministère qu'ils n'avancent pas. Vous êtes allié. Vous êtes chez vous. Bien épanoui. Mais vous envenimez un foyer voisin. Le foyer là t'a fait quoi? S'il aime sa femme, donc. Il a acheté la voiture à sa femme. Ça te dérange en quoi? Quelle est cette adversité-là? Cette adversion vis-à-vis des gens? Dans l'église, à un moment donné, il ne faut pas, ne me démentiront pas, Si tu achètes la voiture comme pasteur et que ton chef n'a pas la voiture, hey, tu as jugé les problèmes. Quelle est cette version là? Où on mesure dans des choses viles. Des choses viles. Vous êtes dans une profession. Vous êtes magistrat. Vous êtes peut-être ou bien quoi pharmacien. La pharmacie de l'autre prospère. Et la vôtre ne prospère pas. Où est-ce que vous avez le problème là alors? C'est vous le problème. C'est vous le problème. Vous n'avez pas à la voir comme un adversaire. Lui donner une recette ou bien lui donner un conseil, ce n'est pas un adversaire. Ça c'est faussé. Dans l'enseignement alors c'est pire. C'est pire. Voyez des gens qui sont sortis une même promotion. Qui vous a dit que parce que vous êtes de la même promotion, vous aurez les mêmes choses? L'autre sera un jour délégué, toi tu ne seras jamais un délégué. Vraiment, il faut être clair là-dedans. Donc, parce que vous êtes de la même promotion, on dit il est déjà censeur, il est proviseur. Si tu veux aussi prendre un raccourci pour être proviseur, tu peux entrer dans quelque chose qui n'est pas bon. Si Dieu a voulu qu'il soit proviseur, laisse-le là-bas. Il dit que non, c'était même à l'école, il était même teigné. Hein? Il me demandait même souvent. Il me demandait, laisse ça. N'entre pas en question pour rien. Tu as un potentiel. Un potentiel sûr. Mais comme tu veux te mesurer aux autres, tu as échoué. J'ai dit à une, dans une des paroisses où je suis passé, je leur ai dit, je sais où je vais et je sais ce que je deviendrai dans cette église. Même comme il y a le désordre là, je sais, ça n'a pas ma destinée dans l'église ici. Je suis convaincu d'une chose. Je n'ai pas besoin de courir. Tôt ou tard, j'arriverai à un sommet et je dirigerai. Ça, je suis convaincu. Ça ne souffre de rien. Faites tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Mettez un bâton dans les roues. Dites non, ça, ma destinée n'est pas ici. C'est devant, c'est loin. Il faut que tu aies un ministère. Si tu es louangeur, ta louange, c'est pas seulement ta. Mais si tu vois ta louange seulement ici à Tamja, je te plains. Je te plains. Tu as reçu un ministère. Le ministère n'est pas lié à une paroisse. Le ministère est lié à celui qui t'a appelé. T'appelles pas pour que tu restes. Et c'est ça, ce sont des menaces. On a des oppositions, des gens qui s'opposent pour des choses inutiles. Inutiles. Si on entre dans les chorales, c'est grave. Laissons l'autre là. Il y a des oppositions. Quand tu vois deux mères discuter, tu te demandes même, en fait, elles discutent même pourquoi. Elle discute des choses parce que ton deuil. Voilà tout le combat que vous aurez. Elle n'est pas venue à ton deuil. Et dès ce jour-là, vraiment, elle, rien de bon ne peut plus sortir d'elle. Tout ce qui va sortir d'elle, il faut combattre. Il y a des spécialistes de la contradiction et de l'opposition. Et Satan les utilise puissamment dans l'église. C'est des personnes qui s'opposent à presque tout. Et en réalité, elles jouent le jeu de Satan sans se rendre compte qu'elles ont utilisé par Satan. Je termine très rapidement. Comment surmonter donc les menaces et les faiblesses. Premièrement, pour surmonter les menaces, il faut rejeter la vie de péché. Tant que tu es dans le péché, tu es une menace, tu gardes ta faiblesse. Tant que tu demeures dans le péché, tu demeures dans ta faiblesse et la menace persiste. David avait conscience de cela. Dans le psaume 32, il a déclaré des choses, il a avoué son péché. Deuxième élément, l'humilité. L'humilité. Il faut être humble. Un brisement intérieur. Brisement intérieur conformément à Romains chapitre 6, les versets 6 à 9. La Bible dit que j'ai été crucifié, je suis mort avec Christ pour devenir une même plante. C'est ça l'humilité. Mourir à soi-même pour vivre avec Christ. Maintenant, quand on a fait ces deux premiers préalables, il est possible de chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu, ce n'est pas des prières saisonnières. Ce n'est pas des lectures sporadiques de la parole de Dieu. C'est avoir des moments avec Dieu. Aujourd'hui, le problème de l'église, c'est que nous sommes trop dans l'agitation. L'agitation, les gens s'agitent beaucoup, 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 font beaucoup de bruit. Dieu parle dans des moments d'intimité. Il faut parfois vous couper des autres. Et dans des maisons, on ne sait plus se taire. Et quand vous vous taisez même parfois dans la maison, c'est comme s'il y a... Il n'y a pas un problème. Des gens ont besoin d'être parfois calmes pour entendre Dieu les parler. Et vous voulez qu'ils passent. Ils n'ont rien à dire. Est-ce que ne rien dire, ne rien avoir à dire, c'est un péché? Il faut apprendre à ne rien dire. Quand vous n'avez rien à dire, taisez. Être enraciné dans la parole. David l'avait compris dans le psaume 119. Verset 11. Il dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. Mais la parole de Dieu, le téléphone. Aujourd'hui, les gars, tu peux lire même plusieurs passages de Dieu et tu t'en souviens de rien. Parce que tu as lu dans le téléphone. Il faut être conscient de son identité en Jésus-Christ et être focalisé enfin sur ta vision. Au moment où tu t'engages à oser recommencer, les au-delà, il est ta vision. La vision que tu as de Dieu. Il faut chercher cela dans une intimité avec le Seigneur. Il faut le chercher dans sa présence et dans des moments intimes avec lui. Il faut connaître la puissance dont tu es. Dans Luc chapitre 19, verset 20, Dieu nous a revêtis d'une autorité contre Satan. J'aurais voyé Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Dans Proverbe, il est dit que le méchant s'enfuit sans qu'on le poursuive. Pourquoi toi tu passes le temps à poursuivre les gens qui sont méchants? La Bible dit que si tu es établi dans la justice, les méchants s'enfuiront loin de toi. Amen. Surmonter donc les forces contraires. Dans la grâce, dans la présence de Dieu, qu'on parvient à surmonter les forces contraires. Amen. On va se lever pour la prière. Remercie Dieu qui fait de toi un vainqueur face aux forces contraires. Seigneur, parce que tu as identifié tes faiblesses et les menaces, dis-lui que tu comptes sa grâce pour surmonter ces forces contraires. Dieu t'a donné une vision. Peut-être Dieu, je reviens à toi et dans la vision que tu m'as donnée. Dieu a mis en toi un potentiel. Peut-être tu as eu peur. Dis au Seigneur, je prends conscience. Désormais, je vais mon potentiel. Il y a trop d'adversaires. Tu as tellement regardé à tes adversaires. Dis au Seigneur qu'aujourd'hui, tout est... ça n'existe plus. Que tu vas les aimer et tu vas t'enrichir de leur présence. Tu as eu honte du Seigneur. Dis au Seigneur, ce soir, ta honte est terminée. Tu t'engages à aller au-delà en comptant sur lui par le Seigneur qu'il met en toi. Jésus pouvait dire le zèle de ta bon. Dis au Seigneur de te remplir du zèle que le Seigneur avait pour son œuvre. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu nous appelles à surmonter les forces contraires, à oser recommencer avec toi. Seigneur, tu as relâché ta parole ce soir. Nous voulons croire que tu nous donneras la forme qui sied. Que ton Saint-Esprit continue l'œuvre que tu as commencée en nous et que tu nous donnes de recommencer là où tu nous appelles à recommencer. De sortir de nos faiblesses, d'affronter avec toi nos menaces et d'aller au-delà de ces faiblesses et de ces menaces avec toi. Toutes les forces contraires qui veulent nous tirer vers le bas, des forces qui veulent nous ramener à des choses viles, Seigneur, tu as dit, vous avez été crucifiés, regardez aux choses. Père, nous voulons regarder à toi et à toi seul. Nous voulons être focalisés sur le ministère que tu nous as donné. Nous voulons être focalisés sur ta personne. Et nous ne voulons pas nous laisser embarquer par des distractions et des choses vides. Merci de l'accomplir au nom de Jésus-Christ.
Saint-Esprit.